Dehors, ce que jusque-là on appelait la nature est tout embrouillé. Un arbre est tombé sur un mur. Va falloir élaguer, couper tout ça, ça fera des bûches pour l'hiver. Mais ranger n'est pas la solution. Ne pas supposer que le monde va se contenter d'un ménage de printemps digne d'un lendemain de fête. On ne va pas se borner à vider les cendriers et à mettre les bouteilles sous le tapis. On va arrêter de boire et de fumer, recycler le verre, composter, caresser les vers de terre survivants et se faire tout petit. La fête est finie. Enfin, elle est finie depuis longtemps en réalité. Terminée. C'est pourquoi, un peu partout, on fait la fête à mort. Allez, une petite dernière pour la déroute. On installe des cabarets et des casinos à la ferme, rêves partis dans les champs, mais ça les gendarmes n'aiment pas du tout, boîtes de nuit sur les plages, Airbnb, to be, parce que je le vaux. C'est intense, c'est fiévreux, c'est sauvage. C'est la peur qui danse.
C'est intense, c'est fiévreux, c'est sauvage. C'est la peur qui danse. Merci à Sophie Coiffier de nous avoir offert la lecture de ce bel extrait qui a donné à ce format hors-série de notre cycle son titre. Merci infiniment à Sophie d'avoir été avec nous pour notre grand saut dans le vide, notre tout premier épisode. C'était un moment aussi magique qu'effrayant et tu as, Sophie, affronté cette peur avec nous.
Et nous nous retrouvons donc ensemble ce soir avec toujours mes camarades, Elisabeth Hale, Sébastien Vignac et moi-même, Florian Bulou-Fezard, pour ce sixième épisode. Un épisode à la longueur inespérée, et puisque nous commençons par les remerciements, nous tenons à remercier très chaleureusement Du Radio, qui nous a proposé d'investir avec une immense générosité, comme toujours cette nuit blanche à Paris. Ça nous touche profondément, et nous tenons aussi et surtout bien sûr à remercier la famille Du, pour avoir accepté de nous accompagner dans cette aventure, dans cet ultime semestre de l'ESSAT Valenciennes, de nous avoir accompagnés avec une grande décontraction en nous donnant la forme et la chance surtout de nous essayer à ces formats radiophoniques inouïs pour nous.
Cette soirée spéciale, vous l'aurez sans doute déjà compris, est dédiée à la fermeture imminente de notre école d'art et design de Valenciennes. Alors que le saut dans le vide s'approche, que le compte à rebours est lancé, qu'un deuil reste à faire, il ne sera pas question de se lamenter sur cette école qui va disparaître. Rassurez-vous, loin d'être une veillée funèbre, nous avons voulu que cet événement soit l'occasion pour toutes les personnes présentes de lui déclarer sa flamme, de rêver du futur, de lui dédier une danse, lire des haïkus et de se détendre en discussion, lecture et musique.
Avant de nous lancer dans ce qu'il nous reste à faire, peut-être quelques mots quand même sur ce qui a été fait depuis cette première rencontre avec Sophie. Donc après ce premier grand saut dans le vide, pour le deuxième épisode, on a accueilli trois étudiantes très actives dans la lutte qui nous ont livré un témoignage sincère et assez bouleversant de leur vécu de ces trois premières années. Yalma Robette, Chloé Théré et Laurette Brehm. Puis c'est Félix Casitani qui est venu nous rendre visite à l'ESSAT pour parler du deuil, de ce deuil qui nous reste à faire, pas seulement de cette école, mais de quelque chose qui nous dépasse. Pour la quatrième rencontre, nous avons accueilli Pascal Nicolas Lestrade et Valérie Yobé pardon, pour parler de la question de faire recherche en commun, d'explorer quels étaient ces contextes où on pouvait du coup mener des recherches à plusieurs en commun et qu'est-ce qu'il y avait derrière cet éventail qu'on peut appeler faire recherche en commun. Et lors de la cinquième rencontre, on a donné la place aux autres écoles menacées. On a parlé du paysage des écoles d'art en lutte aux côtés de Lucille Bataille, Jérôme Dupéra et Xavier Dejarcy.
Ce qui nous amène à ce sixième et peut-être avant-dernier épisode, on ne sait pas. Et peut-être pouvons-nous commencer par vous offrir une vision des différentes séquences qui rythmeront cette nuit blanche.
En premier lieu, nous discuterons de différentes tentatives de déconstruction pédagogique en art et en design, en considérant les écoles comme zones d'autonomie temporaire, aux côtés de Daria Ivazova, chercheuse en design, et Catherine Gell, historienne du design et éditrice.
Nous parlerons ensuite de nos conditions de travail à travers le projet de loi pour une continuité de revenus des artistes autoristes avec Jimmy Sintero, designer graphique et membre du groupe de travail sur la proposition de loi.
Notre promenade nocturne se poursuivra en témoignage aux côtés des étudiantes et étudiants, enseignantes et étudiants et amis de l'école, récoltés et montés par l'artiste Jeanne Maillard.
Nous nous échapperons ensuite sur une improvisation sonore de Garam Choi, avant de danser sur les influences dembow, break latin, club funk de l'artiste bruxelloise Love.
Et lorsque les aiguilles de l'horloge commenceront à pointer vers le haut, prendra place le Midnight Book Club qui se prolongera avec un live de Thomas Moselle et Victor Villafagne jusqu'au petit matin pour nous bercer de lecture et de musique.
Sans tarder, on va donc commencer par notre sixième rencontre qu'on a intitulée « Réinventer l'école ». On a donc à nos côtés ici à la Villette, parce que oui, ce soir, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais on n'est pas à la maison, on n'est pas à la salle de Valenciennes, mais on est bien à Paris, pour la Nuit Blanche. Donc ce soir, Daria Ivazova et Catherine Gell sont avec nous. On voulait justement parler de la question de la pédagogie. On a parfois tourné autour, on n'y a jamais consacré toute une émission. Si l'art a toujours nourri l'imagination des pédagogues, on propose que l'inverse soit tout aussi vrai. Donc cet après-midi, qui ressemble un peu plus à nos rencontres habituelles, on voulait parler de ce qui constitue l'école d'art et design, les pratiques et les missions pédagogiques, la nécessité et les tentatives de réinventer l'école d'art et design, ainsi que les menaces, aussi bien de l'extérieur que depuis l'intérieur, qui pèsent aujourd'hui sur nous. Donc, pour ce faire, on est vraiment ravis de vous accueillir, Daria et Catherine. Daria Ivazova, tu es donc designer, enseignante, chercheuse, diplômée de l'ESAD, donc l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Tu as soutenu une thèse intitulée « Designer défroqué » en décembre 2024. Dans cette thèse, tu as articulé des théories et des contextes économiques, socioculturels et politiques afin d'évaluer la viabilité, l'efficacité et la sincérité de la démarche des designers qui s'opposent au système économique dominant. Catherine Gell, toi tu es donc historienne du design, éditrice et commissaire d'expo, enfin de nombreuses casquettes, enseignante aussi dans des écoles de art et design, l'ENSAD de Nancy notamment, mais aussi à l'ENS Paris-Saclay et Sciences Po Paris. Pour commencer, je vais laisser la parole à mon collègue Sébastien.
Daria, tu as soutenu une thèse « Les designers défroqués », comme vient de le souligner Elisabeth, en décembre 2024. Nous pourrions dire que même si tu y consacres plus explicitement une partie, donc c'est la fin de ta thèse, c'est le dernier chapitre, le chapitre 4, tu t'intéresses à comment on va essayer de décloisonner comment on peut décloisonner les institutions. Cette partie que tu as nommée école comme zone d'autonomie temporaire, c'est une partie dans laquelle tu explores la question de la pédagogie, mais en fait c'est aussi un fil rouge de ta recherche et de ta pratique. Tu ouvres cette partie avec la vaste question « qu'est-ce qu'une école de design ?» alors qu'aujourd'hui notre école ferme et qu'on commence à envisager la suite sans les conforts matériels dont nous bénéficions, animés par des envies communes de poursuivre des choses qui ont été initiées dans ce cadre-là. On se demande justement ce qui reste essentiel, est-ce que tu aurais des pistes pour nous, pour envisager du coup ce futur très proche ?
Donc bonjour, je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation et remercier Dieu Radio pour leur accueil. Oui, en ce qui concerne les pistes, dans ma thèse, je pars du constat que, qui n'est pas fait par moi, en fait, c'était entre autres Keynes, l'économiste qui l'a fait ce constat. En fait, elle a dit qu'il y avait un inversement qui s'est opéré entre les fins et les moyens, c'est-à-dire que la mentalité capitaliste était un moyen et puis petit à petit, progressivement, elle est devenue une fin. Et quand on regarde comment ça se passe dans les écoles, surtout territoriales en France, dans les écoles d'art et design, en fait, on peut parler d'une forme de censure économique. Donc, c'est-à-dire que pourquoi les écoles ferment ? Parce qu'on choisit de ne pas consacrer les moyens financiers, en fait, à leur entretien. Et vu que ces moyens financiers, ils ne sont pas consacrés, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent plus prioritaires. Ils ne deviennent plus la priorité de ces dépenses-là. Et donc, effectivement, ce qui m'a intéressé, par exemple, dans ma recherche, sont des initiatives pédagogiques, par exemple, même l'initiative dont Catherine a fait partie, donc comme Nuclear Banana ou Dirty Department ou d'autres initiatives dont je n'ai pas parlé, mais qui m'inspirent énormément. Par exemple, Floating University à Berlin, en fait. Donc, D'ailleurs, ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot « university » dans leur nom, donc ils le barrent à chaque fois. Et c'est-à-dire que ce sont des initiatives qui ne tiennent que grâce à l'enthousiasme des enseignantes qui sont à leur initiative, à leur origine, et par aussi une belle énergie d'étudiantes, en fait, qui viennent aussi alimenter ces initiatives-là. Et si je devais énoncer quelques pistes, c'est effectivement, donc moi j'ai un grand espoir dans les enseignantes, dans les théoriciens et théoriciennes et des créateurs et créatrices en fait, qui ont énormément d'idées, qui n'ont pas forcément de soutien malheureusement, ou pas assez de territoire par exemple, ou de ministère. Et donc l'espoir que j'ai, c'est qu'on peut tout, quand même toujours trouver d'autres types de financement pour créer des écoles et des contre-écoles, en fait, qui fonctionnent avec d'autres logiques financières, on va dire. Donc, par exemple, là, j'ai réfléchi aussi à votre question. Et donc, par exemple, je me suis beaucoup inspirée aussi du livre de Ivan Illich, Des scolaires et la société. Et d'ailleurs, Une société sans école, je pense, c'était traduit en français. Et donc, lui, il fait une proposition assez radicale, qu'à l'époque où il a écrit ce bouquin, en fait, il dit qu'il faut libérer les écoles de l'emprise de l'Église. Et donc, aujourd'hui, en fait, si on continue son argument, en fait, il faut libérer aussi de l'emprise de l'État. Et je pense qu'il le mentionne même. Et donc, d'une certaine manière, en fait, on se retrouve justement dans une forme de vulnérabilité en tant qu'enseignant, enseignante et en tant qu'école, parce que justement l'État il retire son soutien financier, et donc on retrouve cette liberté, mais on perd en fait les moyens en fait qu'on aurait pu mettre en place pour faire fonctionner cet environnement en fait enrichissant pour tout le monde. Donc c'est à dire que peut-être aussi il faudrait revoir en fait, avoir une relecture un peu critique en fait de ces écrits Ivan Illich là, et de voir comment est-ce qu'on peut trouver d'autres modèles économiques en fait.
Réagir, d'abord merci aussi à vous, à la radio qui nous accueille. J'ai plusieurs potentielles réactions. En fait, je me disais d'une certaine façon, alors en fait, la cause économique, pour moi, ça veut dire que c'est forcément une cause politique. C'est-à-dire que, grosso modo, la question, c'est pas seulement la question de l'État. Les écoles territoriales dont Valenciennes fait partie, c'est de l'argent public. Je ne sais pas si c'est de l'argent de l'État. Je fais la différence par rapport à Nancy, où j'enseigne, et qui est une école nationale, qui donc, elle, c'est direct le ministère de la Culture. Donc, pour moi, c'est vraiment cette espèce de liaison entre l'économique et le politique, le fait que les choses aillent ensemble. Alors, ouais, bien sûr, on peut compter sur les forces et les énergies et les envies. Il y a des dispositifs, en fait, d'une simplicité affolante, qui n'ont pas besoin non plus de moyens, mais par contre, il faut un peu la rage et l'envie. Donc, c'est aussi une espèce de chose comme ça. Et après, évidemment, en fait, après, on est hyper vite piégé, je trouve, parce que l'État, c'est pas l'Église, quand même, même si voilà, Illich, c'est le vrai défroqué de l'affaire. Et en fait, c'est la question entre emprise et soutien, quoi. Et entre un soutien qui se tient à des distances ou pas de distance, etc. Si je compare, parce que vous avez fait allusion au Dirty Art, c'est l'argent de l'État aussi néerlandais qui arrive, en l'occurrence, au Sandberg Institute, qui est la Rietveld Academy. Et c'est un argent, par contre, qui est mis sur la table et qui est partagé dans chaque département. Donc, en fait, chaque département s'empare de sa quote-part et fait avec ce qu'il veut. Donc, l'argent, il est évidemment assez nécessaire. Et après, l'autre notion, je ne sais pas si je suis très, très claire quand je raconte tout ça, l'autre notion, pour moi, c'est cette notion de projet. C'est-à-dire, en fait, finalement, l'école, ça devient un projet. Quand il est désincarcéré de son rapport au processus de Bologne, etc., tous ces machins-là... Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal le processus de Bologne. Je dis qu'à un moment, on a besoin de se désincarcérer, qu'on imagine toujours que les écoles d'art sont capables de le faire, c'est-à-dire de jouer avec. Moi, je pense qu'il faut jouer avec les choses. Hein, c'est un peu... Mais cette notion de projet, elle nous met encore dans la mouise, si je peux dire. C'est-à-dire qu'elle vient encore une fois faire un truc un peu à double, parce que le projet, en fait, c'est aussi le mot capitaliste par excellence aujourd'hui, quoi. On fonctionne par projet, on fait de la recherche sur projet. On fait des dossiers pour etc., etc. Mais en même temps, alors là, l'histoire du design oblige quand même, on ne le dit jamais assez, la période radicale italienne, les radicaux italiens, tous les projets, on ne s'est jamais posé la question de d'où vient le fric. Il vient de la recherche. Donc en fait, eux, ils ont su utiliser l'argent de la recherche pour produire ces objets singuliers, etc., qu'on a quand même construit indépend à la fois de l'histoire du design et des projets, mais de l'histoire réflexive du design. Donc il y a une espèce d'endroit, en fait, où cette espèce de rapport à ce système-là, il est, je voudrais pas dire productif, mais en tout cas, on peut le hacker. Voilà, moi, c'est ça que je retiens. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être sous emprise, là, je rejoins, mais 100% derrière. Mais en fait, il faut quand même utiliser l'argent quand il est possible de l'utiliser. Voilà, c'est ça que j'aurais à dire.
Par où commencer ? Non, avant de poursuivre, on va faire une petite parenthèse, effectivement. Alors là, tu utilises des termes, je pense, qui nous mettent des étoiles dans les yeux. Hacker, je pense que c'est à peu près ce qu'on fait depuis 2 ans. On dit toujours, on est quand même raisonnable. C'est de l'argent public, évidemment. C'est pas sans limite. Malgré tout, alors c'est vrai que bon, on parle un peu de nous ce soir, on se permet. On fonctionne plus en projet. Nous, ça y est, du fait d'un deuil annoncé, on a cette extrême grande liberté de pouvoir se dire que on fonctionne moins en projet, qu'on a de compte à rendre à personne, pardon de le dire, enfin à peu près, si ce n'est à nous-mêmes, et puis de se faire des retours à nous-mêmes. Voilà, on est quand même totalement désocclé de cette forme d'institution. Nous pourrons en revenir un peu au fil de notre discussion. On l'a dit, vous avez toutes les deux enseigné dans des contextes divers, donc qui sont à la fois académiques, donc à la fac de Saint-Étienne, à Strasbourg pour toi, Daria, et à l'ENS Sciences Po pour toi, Catherine, et un peu moins académiques, si on peut dire. Alors, on aura aussi l'occasion de redéfinir parce qu'on entend d'académiques, moins académiques, de moins situés dans cette dichotomie. Enfin, bon, en tout cas, dans des contextes moins académiques, les écoles d'art, nous, on est souvent parlé, est-ce que les écoles d'art, c'est un contexte en académique oui et non, on ne sait pas trop. À l'ESA de Saint-Étienne, à Reims, la IR, voilà. Donc, je voudrais vous demander à l'une et à l'autre comment vous envisagez, comment vous considérez cette casquette d'enseignante dans ces divers contextes et comment cette pratique de l'enseignement dans ces divers cadres, et j'imagine, avec des élèves très différents, comme nous, on le constate aussi, ça peut influencer vos recherches. On aurait envie d'ajouter peut-être pour le meilleur comme pour le pire.
Alors, je mettrai de côté Sciences Po parce qu'en fait, c'est un cours dans un master bien particulier où je viens faire l'historienne, etc., etc. Mais quand même avec un public intéressant parce qu'en fait, on parle à des étudiants, c'est-à-dire très, très, très variés. Ça vient de philo, ça a fait Sciences Po en école du droit, ça a fait des tas de choses différentes. Donc voilà, mais c'est une initiation à la question du design. Par contre, si je pose une école d'art, quelle qu'elle soit, enfin une de celles par lesquelles je suis passée, ou l'ENS, oui, c'est un très très grand plaisir d'avoir affaire, excusez-moi de le dire comme ça, à des cerveaux dont la plasticité est différente. C'est vraiment un grand plaisir de prof, en fait, cette affaire-là, d'avoir ces espèces de retours de gens qui ont été formés très différemment, même si à l'ENS aussi, ils sont formés à la question du design, mais dans des années antérieures. Mais voilà, ça travaille les questions différemment. Et moi, il y a un truc où je me suis amusée, mais sérieusement, pendant plusieurs années, c'est à faire les mêmes cours. Et en fait, ça aussi, c'était super, super intéressant parce que je crois, et je suis tout à fait persuadée. Alors, on s'imagine, à l'ENS, je prépare les étudiants à l'agrégation, d'accord ? Donc, ça bosse, quoi, d'une certaine manière. Mais en fait, dans l'un comme dans l'autre cadre, on a en absolue capacité de recevoir les mêmes choses. Voilà, ça donne des choses différentes, mais pour moi, c'est les mêmes choses. Je sais pas, voilà la première réaction, en tout cas, par rapport à ces deux environnements, l'un académico, mais quand même, il y a une différence, c'est que l'ENS, l'École Normale Supérieure, c'est une école. Ce n'est pas une université, même si par ailleurs, elle a des trucs très universitaires et qu'aujourd'hui, comme elle a rejoint Paris-Saclay, c'est-à-dire une université, elle est soumise à des injonctions universitaires. Mais au départ, ça reste une école quand même. Voilà. Avec une belle histoire, quoi. C'est une école où on ne gagne pas de diplôme, historiquement parlant. Donc ça, moi, je trouve ça génial.
Pour contextualiser aussi, on rappelle qu'il y a beaucoup, si ce n'est toutes les écoles territoriales, qui sont fortement invitées à rejoindre des universités, des EPE, des établissements publics expérimentaux. Voilà, pour aussi contextualiser sur ce qui se passe actuellement. Daria ?
Oui, si la question était comment est-ce que cette expérience d'enseignement a influencé ma recherche, sans forcément que ça soit mon sujet, en fait, c'était pas mon terrain, donc mes étudiants, c'était pas mes... mes cobayes, voilà. Mais bien évidemment, en fait, j'ai enseigné tout le long de la rédaction de ma thèse. Donc, ma thèse, elle m'a pris quand même 8 ans. Donc, ça fait un bail. Donc, j'ai enseigné dans des environnements différents. Et effectivement, moi-même, le produit d'une école d'art. Donc, je te formais à l'école d'art et design de Saint-Étienne. En me retrouvant à l'université, forcément, en fait, je comparais. Enfin, je comparais les manières d'apprendre, les manières d'enseigner, les manières de se comporter dans ces espaces, les manières de s'approprier ces espaces. Et donc, c'est pour ça que je trouve que les murs de l'école, les murs des écoles d'art et design en général, ils sont super importants, en fait. Et j'ai réécouté il n'y a pas longtemps l'une de vos émissions, en fait. Je pense que c'était... Vous avez parlé de deuil. Vous avez parlé du fait que les étudiants, ils ne trouvent pas uniquement des connaissances ou des techniques, mais aussi l'électricité, le refuge, etc. Et donc, ce qui est super important pour moi dans les écoles, c'est l'expérience sociale, en fait. Donc, c'est-à-dire que, surtout qu'aujourd'hui, quand on peut tout apprendre sur Internet, en fait, ce qui fait l'intérêt de... Enfin, tout, presque tout, hein, toute proportion gardée. Ce qui fait l'intérêt de l'école, en fait, c'est l'expérience sociale, c'est les enseignantes eux, qui tiennent les murs. Donc, nous sommes des space holders, comme ils appellent ça en anglais. Donc, les étudiants aussi qui suivent le mouvement et qui viennent apporter beaucoup de vie, en fait, beaucoup d'enthousiasme, en fait, dans cette expérience pédagogique-là. Et donc, c'est pas uniquement des connaissances. Donc, c'est ça aussi que j'en tirais. Et c'est ça aussi qui était très important, en fait, surtout dans l'écriture de la dernière partie de mon travail. Et puis voilà. Et donc, ce que je trouvais aussi très important, en fait, et c'est aussi dans la période post-Covid et avec tous les... Comment dire ? Quand j'étais étudiante moi-même, j'étais l'étudiante au moment où c'était l'âge d'or un peu des écoles d'art. Donc, on n'avait pas des problèmes financiers particuliers. Donc, on avait tous les enseignants en place. Les systèmes nerveux de nos enseignants, ils étaient correctement accordés. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a de plus en plus de précarité chez les enseignantes. Et comment est-ce qu'on peut demander à une personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle va travailler le mois d'après ou même l'année d'après de se projeter dans un programme pédagogique sur plusieurs années à venir, en fait? Et ce qui produit de la stabilité aussi dans un programme pédagogique, c'est cette capacité de se projeter, cette capacité de construire, de tester, d'expérimenter, de revenir sur nos erreurs, de faire autrement, mieux ou autrement tout simplement. Voilà.
Oui, tu as entièrement raison. En plus, ça a fait vraiment écho à cette émission qu'on avait faite sur le deuil où justement, moi, j'avais évoqué ma situation personnelle qui était que quand j'étais étudiante, les enseignants et enseignantes que j'avais étaient vraiment mon repère que c'était possible de faire ce métier. C'était le repère que j'avais dans mon entourage de me dire « Tiens, en fait, il y a quand même cette possibilité de pouvoir exister après l'école. » Et du coup... Sans ça, c'est sûr qu'on perd des repères. En tout cas, les étudiants actuels ont peut-être moins ce repère, en tout cas.
Tu m'étonnes quand on nous dit qu'en fait, on fabrique nos propres artistes qui vont devenir enseignants et que c'est en boucle, c'est plus un repère, c'est un néant.
Moi, j'ai une autre parenthèse, c'est qu'en Hollande, où j'ai enseigné, donc à Amsterdam, les contrats étaient annuels. Donc, on ne savait pas si à la fin de l'année, on reprenait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un système. Là, on est dans un système quand même très, très français, où effectivement, cette question des précarités, des pérennités, de qui est titulaire, de qui ne l'est pas, etc., etc. Je pense qu'en fait, c'est là aussi où, en fait, il y a à dénoncer, mais il y a aussi à se questionner. C'est-à-dire, en fait, comment, dans des circuits et des possibilités relativement fragiles, parce qu'on va vers ça, parce qu'on va être de plus en plus là-dedans, il y a des choses qui peuvent rester pleines de ressources. Et moi, j'ai un peu envie de dire que les enseignants ont des questions à se poser sur ce que leur fait la société. C'est-à-dire, ce que font ces systèmes, c'est quand même de produire finalement des méfiances mutuelles. Ce qui ne va pas dans les écoles, c'est tout ce que vous avez dit là, c'est aussi ce qui se passe entre nous, pour moi. Et je pense que ça, évidemment que ça travaille et qu'on nous fait travailler sur ces espèces de méfiance les uns par rapport aux autres, etc. Mais en fait, c'est là où il faut être Ouais, assez clairvoyant d'une certaine manière. C'est en fait comment on recrée les choses qui nous reformulent ou qui reformulent nos amitiés ou nos liens. Et pour moi, ça, c'est effectivement la pédagogie. Et en fait, ce que je vois aussi, c'est qu'évidemment, ce qui est attaqué, c'est des formats pédagogiques, donc des formats pédagogiques qui s'extrairaient de quelque chose qu'on veut de plus en plus normatif ou normalisé. Et ça, je pense que c'est quand même encore possible à certains endroits, de jouer ou de ruser. Enfin, ça va être un peu mon leitmotiv, hein, vous aurez compris. Mais voilà.
Pour poursuivre, quand on a pensé justement à cette invitation à vous deux, c'était notamment suite à la lecture ou la relecture des échanges que Daria, tu as menés pour le Azimut 51. Donc le Azimut, une revue bisannuelle de recherche en design que Daria et moi connaissons assez bien, Catherine aussi d'ailleurs, pour y avoir travaillé pendant nos années de recherche à Saint-Étienne. Donc ces échanges, Daria, tu les as appelés déconstruire la pédagogie et tu as fait croiser donc Catherine, notamment sur la question du dirty art, donc on y reviendra sur cet exemple. Mais aussi Jersey Seymour, qui avait donc cofondé cette option. Jesco Fezer, qui est donc architecte et designer à l'origine du Public Design Support. Et Yann Bollen, qui lui est designer et était le co-commissaire de la 4e Biennale de Design d'Istanbul, qui s'appelait donc School of Schools, ainsi que le directeur du département de Social Design à la Design Academy de Eindhoven. Pour en revenir justement à cette option, Catherine, est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur la genèse peut-être du dirty art, les craintes, les envies, les volontés, enfin les rêves qui avaient motivé justement cette option à l'époque?
Alors c'est une super vieille histoire pour moi d'une certaine manière, mais en même temps c'était assez revigorant de lire ce qu'en dit Daria dans sa thèse. Donc elle va compléter si j'oublie les trucs. Grosso modo, le Dirty Art Department, c'est au départ un groupe de 4 personnes que je vais citer parce qu'elles ont été très importantes et parce que les échanges avec elles ont été tout à fait formidables. Donc évidemment Jersey Seymour, c'était notre flagship d'une certaine façon, mais pas que. C'est quelqu'un qui a vraiment en fait travailler des questions, à la fois des questions théoriques et à la fois des questions du faire, qui étaient passionnantes. C'était Stéphane Barbier-Bourvet, qui est un designer qui, lui, avait été formé à l'ECAL, donc une espèce d'école genre méga efficace, on va se le dire comme ça, mais qui a toujours été passionné, Stéphane, par la question de l'art contemporain, donc qui, pendant ses études, ouvre une galerie d'art dans laquelle viennent des très bons artistes contemporains. C'est Clémence Seyès, qui était une toute jeune, fraîche, émoulue de l'école d'art de Reims, et puis ma pomme. Ça commence sur des histoires de discussions, en fait, effectivement, autour des questions de pédagogie, des façons dont en fait on peut réouvrir des choses dans un moment où en fait ça commence à se figer partout en Europe. Hein. Jersey est à Berlin, Clémence va le rejoindre à Berlin à un moment, Stéphane navigue entre la Suisse et la France, moi je suis une petite Française en France. Donc en fait il y a toutes ces conversations qui se cristallisent dans cette espèce de groupe qu'on a appelé Nuclear Banana. Qui est évidemment une, enfin qui est évidemment, non, ça n'a rien d'évident, mais qui est une référence à Sun Ra, donc à une certaine manière en fait de réinventer les récits pour grosso modo, alors moi ça m'intéresse, je suis une historienne, hein, l'histoire c'est une construction, c'est jamais la réalité ou la vérité des faits, hein, c'est comment on veut orienter quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir agir dans le présent, enfin si l'histoire sert à quelque chose c'est quand même à être dans son temps, quoi, d'une certaine façon. Et donc, Nuclear Banana, en fait, manipule tout ça de manière plus ou moins intuitive, plus ou moins organisée, mais quand même construit, en fait, une espèce de rapport à la pédagogie. Et la chance, en fait, et ça, pour moi, c'est vachement important, c'est une discussion entre un designer hollandais de Druk Design, enfin, qui a appartenu à Druk Design, qui est Jürgen B., qui prend, en fait, qui sort d'une grosse déception, il n'a pas eu la direction du département de design de RCA. Et du coup, on lui propose le Sandberg Institute, il prend le Sandberg Institute Et c'est quand même un des derniers exemples que moi j'ai d'une école qui est quand même dirigée par un designer, c'est-à-dire par quelqu'un qui est un praticien, ce que je trouve incroyablement important, c'est-à-dire que c'est jamais des théoriciens qui vont venir faire quelque chose. On peut aider, on peut participer, on peut orienter, on peut soutenir, on peut s'y plonger avec délices et frissons, mais voilà, c'est quand même des praticiens. Et le dialogue avec Jürgen a été absolument nécessaire, en fait, et passionnant pendant tout le moment où moi j'ai été au Dörtiard. Donc en fait, Jürgen veut, grosso modo, décrasser un espèce de département d'art appliqué où on fait du néo-artisanat, pour le dire très très rapidement et de manière un petit peu lapidaire, on m'excusera. Et on arrive, ça c'est une situation dingue, on arrive à 4, on prend un département, on n'a pas besoin de faire des réunions, quoi. On a tout en... Ça circule, c'est fluide, on n'a pas besoin de se dire les choses 3 milliards de fois, on n'a pas besoin de négocier, ou en tout cas ça se fait très naturellement, c'est pas sans complexité. Et je pense qu'on a bénéficié d'un truc aussi tout à fait étonnant, c'est 4 étrangers dans un pays qui n'est pas leur pays. Et ça, ça autorise aussi beaucoup de choses, si je veux être très contextualisée et très honnête. C'est-à-dire, ça nous a offert beaucoup de liberté, parce qu'en fait, le néerlandais, je veux dire, personne ne le parle, quoi. Donc, on parle éventuellement en anglais, mais on n'est jamais à l'abri, vous voyez, d'une petite mésentente de langage. Donc ça, on s'en est beaucoup servi.
C'est drôle parce que la prochaine question, c'était est-ce que tu penses que ce genre de choses serait possible en France ? Donc du coup, tu as quand même bien partiellement répondu, si ce n'est complètement. Peut-être au-delà de la genèse, mais peut-être que Daria, tu veux compléter l'expérience. Enfin, en tout cas, ce qui nous intéresse tout particulièrement, à la fois quand on réfléchissait à cette émission, mais aussi par rapport à ce qui nous attend dans 20 jours, c'était que c'est une sorte d'utopie, vous m'excuserez le mot, vous êtes passé à l'acte, quoi. C'est pas uniquement... mais comment est-ce que vous... face aux craintes éventuelles, est-ce que justement il y a des choses finalement, vous êtes dit, soit dans la durée, soit dans la mise en œuvre, ça, c'était peut-être pas aussi rose que ça en avait l'air?
Non, ça a été hyper compliqué. Mais peut-être, Daria, tu veux dire 2-3 trucs sur l'histoire que j'ai racontée, parce que bon, le regard extérieur, il est aussi très, très intéressant. En fait, il apporte des choses que soi-même, on n'a peut-être pas complètement perçues. Non, tout n'a pas été rose. Ça a été un gros foutoir aussi, d'une certaine manière. Mais en fait, justement, ça apprend à naviguer en zone trouble. Après, ce qu'il faut redire quand même par rapport au contexte qui est le vôtre, c'est que c'est une école où ça va. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de problème d'argent. Si on part de cette question qu'a soulevée Daria et que tu tresses vraiment tout au long de ton travail de thèse, on n'a pas eu ce problème-là, en fait. On avait, ce que je disais tout à l'heure, cette petite somme qui tombait sur la table au début de l'année, qui faisait d'ailleurs qu'on mutualisait plein de trucs avec les autres départements pour dégager de l'argent pour des projets. Donc en fait, on avait une base financière qui est ce qui va se passer pour vous une fois l'école fermée. Il n'y a plus rien. Le jeu qui était intéressant, c'est comment dans l'institution, on peut jouer avec ce qui sont quand même des règles pédagogiques, des règles institutionnelles et des règles de responsabilité d'une institution vis-à-vis des étudiants. Parce que ça, évidemment, il a fallu qu'on tresse un rapport à ça, quoi. On va dire ça comme ça. Et après, est-ce que ça aurait lieu en France ? Ouais, moi, je pense que ça peut avoir lieu en France. Mais je pense que ça peut. Mais est-ce que ce sera ? Après, il y a un dernier truc. Ensuite, j'arrête de parler. Je passe la parole. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans le moment qui est le nôtre. Et je me réfère aussi à l'histoire du design. C'est les crises. En fait, les moments de crise sont toujours assez productifs. Là encore, j'aime pas trop le... Mais ça produit des choses. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut espérer.
Des fois, on rit un peu qu'on n'a peut-être jamais été aussi productif à l'ESSAD. En tout cas, personnellement, je crois n'avoir jamais été aussi productif que ces derniers mois. On est fatigué, mais on est très fatigué.
J'allais contextualiser en disant cette semaine, elle a été particulièrement, particulièrement intense. Donc, ouais.
Oui, mais on sort rincé.
Mais on en avait pas mal parlé, c'est vrai qu'à la question du deuil... à la troisième émission. Je veux juste demander une question qui n'était pas tout à fait prévue, mais tu dis que ça peut avoir lieu, mais qu'est-ce qui empêche ?
Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, c'est la frilosité ou c'est la peur, hein, votre affaire de danser avec la peur, elle est hyper juste en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des formes de, il y a des formes de peur. Et en fait, ça veut dire tout simplement qu'au sein d'un département, mais c'est fait pour ça, et c'est fait comme ça, les écoles et les institutions, il n'y a jamais, a priori, mais peut-être que si, peut-être que c'est possible un jour, il n'y a jamais, a priori, un nombre supérieur de profs dans un département qui sont OK pour y aller. En fait, il faut qu'il y ait une entente entre les profs. Là encore, j'invite toujours à ce qu'on se questionne de ce qu'on trafique aussi, de ce qu'on tricote. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est juste ça qui empêche. Parce que sinon, à partir de là, je pense qu'il y a plein de choses possibles, en fait.
Mais bon, on en parlait dans le train avec Sébastien tout à l'heure, sur la question de... On se disait ce qui rendait possible aussi ça, c'est l'affect qu'il y a entre nous... C'est l'amitié, en fait, même. Tu parlais de fluidité, moi, j'ai l'impression. Alors, je ne suis pas enseignant, je précise. Je suis un peu grand superviseur. Pourquoi je dis grand? Je ne sais pas, pardon.
Grand vizir, grand vizir.
Je ne sais pas pourquoi grand je vizir, dis. Ouais. J'aime bien l'idée de superviser plutôt qu'autre chose. Mais c'est fluide, voilà, quoi. C'est vrai que c'est...
Mais ça va avec ce truc d'affronter la crise. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, il faut avoir les ressources... pour qu'en fait, au moment où survient une crise, on puisse la prendre bien. Et en fait, c'est ça aussi l'amitié. C'est qu'en fait, d'un coup, il y a quelque chose qui vient saisir. Il faut affronter une situation qui est difficile. Et si on n'est pas armé, on ne peut pas. Ou en tout cas, on se laisse submerger. Et sinon, on surfe la vague, quoi. Peut-être qu'on reviendra sur des questions de vagues et de surf un peu plus tard. Il y avait aussi cette question un peu peut-être de cyclicité. C'est-à-dire que là, par exemple... Dans une des choses qu'on a abordées, c'est aussi des fois des projets pédagogiques qui sont temporellement limités. Est-ce qu'en fait... alors forcément, nous, on est peut-être arrivés il y a trop peu de temps dans cette école pour pouvoir aussi se dire, bon, bah, se dire très égoïstement, bon, bah, c'est fini, c'est pas grave, on zappe, on passe à autre chose, parce que je pense qu'on avait en tout... Je vais pas parler pour tous et toutes, mais en tout cas pour beaucoup d'entre nous, au-delà de la question de maintenir une structure d'enseignement sur un territoire où c'est vraiment hyper important, mais individuellement, en fait, on n'avait pas tous et toutes envie de passer à autre chose. C'était trop récent, on se découvrait aussi dans cette amitié pédagogique-là. Et donc, ouais, il y a cette question temporelle qui se pose. Est-ce que c'est bien, du coup, de pouvoir un peu switcher, d'avoir des projets qui durent un temps pour ne pas s'épuiser et pour être justement sur ce truc un peu de renouvellement? C'est un truc que, à la lecture de ta thèse, on a vu aussi derrière. Je sais plus, je crois que c'était Andrea Brandzi que tu citais quelque part, un truc comme ça, dire en fait, ça marche 8-10 ans, une école, et puis après, faut changer, parce que il y a quelque chose qui se fige, il y a une forme de peut-être de conservatisme qui se met en place, et donc il faut changer de milieu, de contexte pour... est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou pas?
C'est, par rapport à Andrea Brandzi, en fait, j'ai utilisé un extrait de l'entretien que Catherine a fait avec lui pour les transmissions. Donc peut-être, vu que je l'ai lu, cet entretien, donc je ne l'ai pas écouté, donc, et dans les éditions des entretiens, très souvent, en fait, pour question d'économie de place, en fait, on coupe des choses. Et je pense que Catherine, elle sera plaisée même à partager avec vous le point de vue d'Andrea.
C'était une série d'avoir nu pour France Culture, et le truc génial, c'est qu'Andrea Brandzi parle français. Donc voilà. Et en fait, on évoquait, alors c'était des questions assez historiques, mais lui, il a un point de vue super beau sur la manière dont l'Italie a réagi aux choses, quoi. Et en fait, on évoquait en fait juste une série d'écoles, enfin genre Bauhaus, genre Ulm, etc. Et c'est vrai, quand c'est des écoles qui font école, hein, c'est aussi cette question-là qui se pose. Mais en fait, c'est des énergies dont on parle. Et ce que tu racontes, c'est comment on n'est pas forcément des copains entre eux, mais il y a une espèce d'amitié intellectuelle, de respect que les uns et les autres, de ce que font les uns et les autres, qui fait que c'est une amitié, qu'en fait on travaille bien dans l'amitié, ça c'est clair. Et là-dessus, c'est aussi quelque chose qui effectivement bouffe des quantités d'énergie relativement convenables. Et, et, Et c'est quelque chose qui fait que tout d'un coup, l'intérêt commun ou le commun ou des formes communes de choses prennent le dessus sur des formes individuelles d'intérêt qu'on a. Et je ne dis pas ça péjorativement, c'est que ça se passe comme ça. Ça, c'est gracieux, quoi. Moi, c'est ce que j'appelle la grâce. Et ben ouais, ça a un temps, quoi, la grâce. Et effectivement, c'est fatigant. Donc, ce 8-10 ans, c'était une constatation très simple de Andrea Branzi qui regarde historiquement comment les écoles qui font école s'épuisent. C'est-à-dire, en fait, quelle est l'énergie qui les porte et puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'étiole parce qu'en fait, on veut retourner à ses propres choses, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Et puis, je trouve que c'est assez aussi... C'est très intéressant, en fait, cette question aujourd'hui, quand, effectivement, on est pressé par le temps. Donc, c'est-à-dire qu'une école, comme... par exemple, je vais convoquer les propos de Yann Bullen, qui accuse des écoles contemporaines de design qui créent des produits, les étudiants produits, les études produits. Donc, c'est-à-dire que il faut que tout aille super vite, il faut que ça soit super efficace, il faut qu'on fabrique, forge des ouvriers futurs de l'industrie, des industries culturelles, etc. Et donc, de l'autre côté, je pense que mon regard extérieur fasciné, pour revenir à la question d'avant, en fait, pour des initiatives comme Nuclear Banana, par exemple, donc c'est que ce sont des individus qui prennent sur leur temps libre parce qu'ils sont portés par leur enthousiasme, leur passion, et surtout ils ont des atomes crochus. Donc c'est-à-dire qu'il y a une chimie en fait qui les tient ensemble. Enfin chimie, atomes crochus. Enfin bref, entre chimie et physique. comment est-ce que ça vient pas d'en haut en fait? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui leur a dit de proposer ce programme pédagogique? Mais en fait c'est eux qui vont les porter. Et donc, je trouve que pour ça, il faut du temps. Et le temps, très souvent, c'est le temps perso, en fait, et ça ne devrait pas, en fait. Donc, je ne sais pas, mais en même temps.
Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles telles qu'elles sont organisées, c'est-à-dire soi-disant de façon beaucoup plus organisée, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perso qu'on passe à organiser les choses? Moi, je crois que ouais. Donc, je ne sais pas si la question du temps perso... Par contre, la question du temps perso était peut-être plus enthousiasmante. Je ne sais pas s'il y a tant cette question du temps perso que ça. Par contre, c'est évident qu'il y a une espèce de construction commune et que même... parce que c'était un master, donc on choisissait les étudiants. Le master était décorrélé de ce qui se passait avant à la Rietveld. Donc, en fait... Tout le monde avait à passer, comme aujourd'hui dans l'école d'art. Et ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on choisissait 10 ou 12 étudiants et on faisait une team. Les entretiens, etc., consistaient à construire une team. Donc, pas à prendre que des bons, pas, etc., etc., mais à se dire, tiens, ils arrivent tous avec tel ou tel type. Et là encore, je ne veux surtout pas parler de compétences, ça me déprime ce mot, mais avec tel ou tel type d'approche. Et en fait, ça va être, et peut-être on pouvait se planter, mais ça va être complémentaire. Et donc, en fait, ces jeunes gens qu'on va accueillir et tout, ils vont se retrouver. Et en fait, on va se retrouver juste tous ensemble, quoi. Et c'est vrai, par contre, je te rejoins là-dessus, c'est sûr que nous, la question de du temps, c'est toute cette histoire de création de situation, elle permet d'échapper au temps. Voilà, elle permet d'échapper au temps compté de la chose. Donc, à partir du moment où tu es là-dedans, oui, des choses se dilatent avec joie, quoi. Voilà, si je peux dire ça comme ça.
Et aussi, en ce qui concerne le temps, je trouve que ce qui est super important, en tout cas, c'est aussi le fil rouge de ma recherche, c'est le doute constructif, en fait. Se permettre le temps pour un doute constructif. Et donc là, c'est très important aussi de créer des espaces qui sont propices à ce type d'activité au sein de l'école. Ça ne veut pas dire que les étudiants ne font rien, bien évidemment, en fait, ou pire encore, sont sur l'Instagram, TikTok, etc. Donc, ça veut dire qu'ensemble, en fait, on se dit il y a quelque chose qui cloche, on est dans un moment de crise, dans tous les sens. Et comment est-ce qu'en tant que créatif, on s'en sort, en fait? Quelles sont nos hypothèses pour l'avenir? Et donc, pour ça, en fait, on ne peut pas juste inventer une recette magique en claquant de doigts, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce temps-là, pour l'instant, disons que des personnes qui financent des écoles, enfin, pas des personnes, mais les institutions, ils ne font pas confiance suffisamment aux équipes qui voudraient prendre le temps pour mettre en forme de nouvelles formes de pratiques, pour répondre peut-être à des questions qui sont, enfin, j'allais dire plus urgentes, mais en fait, les urgences, il y a les urgences, chacun a les siennes. Mais oui, effectivement, en fonction des atomes crochus entre les enseignants entre eux, en fait, c'est vraiment nécessaire, en fait, de réfléchir des nouvelles formes pédagogiques pour nouvelles formes de pratiques. Et ce que je trouvais aussi assez curieux, c'est les nouveaux masters un peu éclairs qui étaient mis en place à Sainte-Berg. Au début, j'étais complètement fan. J'étais là, ah oui, ils ont tout compris et tout. Et après, là, en ce moment, depuis l'année dernière, on est en train, avec les collègues de la Haute École des Arts d'Orne, de mettre en place un nouveau master. Et quand je vois la quantité de boulot que ça demande, y compris sur le temps personnel, je me dis, mais les masters éclairs, peut-être c'est pas une si bonne idée que ça, finalement.
Les masters pop-up de...
Oui, voilà.
Les masters pop-up de Sandberg. En fait, il y avait une intelligence dans ces histoires de masters pop-up, donc pour éclairer tout le monde. À côté des masters, donc le Dirty Art Department, qui était le master de design produit, on va dire ça comme ça, même si vraiment on voulait échapper à ça, au côté du fine art, au côté du design, qui était le design graphique, il y avait ces masters qui duraient 2 ans. Et qui était donc thématisé, très fortement thématisé, et que moi aussi je trouvais assez malin, et qui aussi, je suis d'accord avec toi, pose pas mal de questions. Mais ce qui était vachement intelligent, c'est que ce que faisait Jürgen, c'est qu'il allait choisir toujours en général un duo ou un trio de designers ou de praticiens ou d'artistes qui étaient sur une recherche en cours. Donc en fait, le master était à la fois une opportunité éventuelle sur un sujet très spécifique pour des étudiants et en même temps, un moment de la recherche des enseignants qui organisaient le master. Donc ça, c'était assez beau, ça veut dire que c'était quand même des enseignants qui finalement venaient pour leur propre recherche, PhD ou autre, s'appuyer comme praticiens ou comme théoriciens sur un groupe d'étudiants avec qui pendant 2 ans ils allaient faire des choses. Donc il y avait quelque chose comme ça d'une espèce de rapport un peu fungi, quoi. Genre, il y a des réseaux de communication à travers le projet qui ne sont, enfin voilà, qui relient 2 générations, qui étaient pas mal. Puis alors il y en a eu des formidables et puis il y a eu des espèces de vrais ratages. Mais par exemple ça aussi, je trouve ça, je pense que les écoles d'art, c'est quand même des endroits où on devrait pouvoir rater. Le ratage, qui est d'ailleurs aussi une notion un peu capitaliste à certains endroits, hein. Tu te relèves, t'es plus fort, t'es machin, mais quand même, until it's happened, it's a failure, c'est quelque chose qui est vachement important, en fait, je dirais, quoi. Enfin, voilà.
Bah, peut-être justement à ce propos, enfin, pour parler des craintes ou peut-être des échecs, on avait aussi envie d'évoquer, là on a beaucoup parlé du rapport entre enseignants, mais évoquer aussi les étudiants et étudiantes, les élèves. On parle beaucoup justement qu'après l'école, c'est nous qui devons créer notre cadre de travail. Mais on est assez convaincus qu'on doit aussi recréer et repenser les conditions pédagogiques. Et hormis le fait que nous, à l'ESAD, on est, et pas seulement, les écoles d'art et design territorial sont menacées, on doit aussi reconnaître, je pense, qu'on doit vraiment repenser ce cadre qui n'est plus tout à fait en raccord avec les élèves qu'on accueille. On est aussi, enfin, récemment, avec Daria et Florian, enfin, avec les personnes autour de cette table, on s'est fait part de ce sentiment d'impasse lors des discussions qu'on avait avec nos élèves actuels. Que malgré, justement, parfois, une sorte de proximité dans nos âges et nos générations, ce qui nous engage politiquement, ce qui nous engageait quand nous on était à l'école, ce qui nous fait vibrer, quoi, ce qui nous donne envie de changer le système, semble plus du tout occuper la même place dans les promotions actuelles. Et j'étais assez navrée de m'entendre dire ah, le bon vieux temps quand nous on était à l'école, quoi, c'est un peu horrible. Mais est-ce que justement cette envie d'agir est aussi peut-être envahie aujourd'hui par de l'éco-anxiété? Je sais que Daria, tu m'as fait part justement de ça. Ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, est-ce que vous l'avez aussi remarqué dans vos étudiants et étudiantes?
Oui, en effet. Et surtout après le Covid, enfin depuis le Covid surtout, j'avais l'impression, vu que je commençais à enseigner en 2016, et puis voilà, j'ai continué après, j'ai vu une différence très flagrante en fait dans les manières d'étudier, Et j'ai pas fait une étude là-dessus, donc c'est pas la scientificité de mes propos qui vont suivre les compléments de table. Mais en tout cas, je me suis dit que justement, l'expérience sociale qui est super importante, surtout dans les premières années d'études en école d'art ou design, en fait, où on expérimente, où on échange, on discute avec nos camarades, on discute avec nos enseignantes, etc. Donc là, c'était quelque chose qui était absent. Donc, c'est-à-dire qu'on a récupéré les étudiantes après quasi 2 années de solitude. Enfin, même si et c'est de la faute de personne en fait, parce que en fait, je sais que à l'époque je travaillais dans une école qui était géniale, donc aussi bien l'équipe pédagogique que la direction d'études. Du coup, tout le monde mettait en place, comment dire, un environnement idéal dans les conditions dans lesquelles, enfin, idéal, pas idéal, mais les meilleures conditions qu'on pouvait offrir dans la situation sanitaire. Et du coup, ce qui a fait que, effectivement, on a récupéré non seulement, en fait, des étudiantes qui sont éco-anxieux, prévu qu'il y a de plus en plus de designers qui sont formés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de designers formés, diplômés, que de très clairement en fait sur le marché de travail. Il n'y a pas assez de, même si ça peut être assez discutable, mais en tout cas c'est ce que je constate. Encore une fois, j'ai pas fait une recherche là-dessus, donc j'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est l'impression que j'ai en fait que il n'y a pas forcément d'embauche pour, enfin, de poste pour tout le monde après. Et par-dessus tout, en fait, il n'y a pas.
Le nombre de candidatures qu'on reçoit à chaque poste, c'en est la preuve qu'effectivement, on n'a pas assez de place.
Ouais. Et du coup, il y a l'éco-anxiété plus l'anxiété liée à la future vie, survie économique. Et en plus, il n'y avait pas de socle, en fait, de cette alchimie qui se forme, qui se crée dans les premières années d'études, ce qui fait que les étudiantes arrivent un peu déboussolées, même beaucoup déboussolées, en fait, et commencent déjà dans les niveaux assez avancés, 3e, 4e, 5e année, à faire des choses qui sont censées de faire en première, deuxième année. Sauf qu'ils n'ont pas eu cette opportunité-là, de travailler dans des ateliers, etc. Et donc, ils ont cette envie, c'est normal. Ils sont venus faire des études d'art et design, donc c'est normal qu'ils ont envie de fabriquer, de bricoler, de se tromper, de refabriquer, etc. Sauf que nous, en 4e, 5e année, par exemple, on demande déjà une certaine maturité, d'avoir une certaine responsabilité par leur production. Et il y a cette espèce de conflit intérieur, ou parfois extérieur, où on ne sait pas trop comment s'y prendre non plus. Donc, c'est-à-dire que... Et, à cela se rajoute effectivement cette question de valeur. On ne partage pas toujours les mêmes valeurs avec nos étudiantes, etc. Donc, effectivement, nous ne sommes pas toujours... C'est encore le cas, mais on peut avoir comment dire, les valeurs partagées. Mais on n'est pas toujours mu par les mêmes... il n'y a pas toujours les mêmes questions qui nous font vibrer, en tout cas.
Moi, j'ai trouvé la période du Covid assez passionnante. C'est un peu bizarre à dire. En tout cas, dans les relations avec les étudiants. En fait, moi, j'avais l'impression que tout d'un coup, bon, cette espèce d'enthousiasme comme ça, bon, voilà, qu'on a. J'avais l'impression que, en tout cas, ce rapport en ligne. Moi, j'ai fait un bouquin avec les étudiants, en fait. Donc, écriture, faire un livre, etc., etc. Donc, il y avait à la fois des choses. Production écrite, machin, mais en même temps, c'est quoi penser un livre collectivement, etc., etc. Moi, j'avais la sensation que, via Discord, on inventait un truc ensemble, en fait, qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait justement dans les possibles d'enseignement. Ça, c'était mes petits enthousiasmes naïfs, parce qu'effectivement, après, on a récupéré quand même des étudiants très abîmés. Je pense que c'est un constat général que tout le monde fait, que les psys font, etc., etc. Ça change des choses. Après, si je recompare avec le dirty, les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est quand même un truc qui change incroyablement. Et puis là, ce qu'on se prend dans la figure avec, moi, avec beaucoup d'intérêt, c'est l'IA qui va encore, évidemment, changer un certain nombre de choses. Moi, dans cette affaire, je suis vraiment une espèce de vieille chouette. C'est-à-dire qu'en fait, mon truc, c'est les textes, quoi. Donc, effectivement, il y a un truc que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les étudiants ont accès aux mêmes sources que moi. Donc, on part sur un pied qui est le même. Et en fait, qu'est-ce que j'ai je peux relier des choses qu'eux ne peuvent éventuellement pas encore relier. Et c'est ça l'esprit critique aussi, c'est comment tu relis. Et à ce titre-là, c'est sûr que c'est plus dur de les faire lire. Ça, c'est vraiment l'importance des réseaux. C'était déjà un peu compliqué, c'est encore plus dur. Mais il y a des choses qui peuvent, en tout cas, se passer. Moi, j'ai quand même la sensation, alors je parle de mon petit point de vue de théoricienne qui n'est pas dans les questions de la pratique. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le texte reste quand même une espèce de point de repère qui reste fascinant. C'est-à-dire que, en fait, surtout quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, quand on a tendance à poser la moindre question qui vous est posée à ChatGPT ou à Claude ou je ne sais qui, le texte, ce qui a été le point de repère qu'il donne dans finalement l'ordonnancement du monde, reste quand même un truc assez sexy. En tout cas, moi, c'est un peu mon... Donc, par rapport à ça, c'est une vieille chose qui brille encore un peu. Enfin, je tiens à l'idée que le texte ou les ensembles de textes gardent le pouvoir de la boule disco, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça.
Mais est-ce que ça, c'est pas la capacité à relier qui est plus puissant, en fait, dans les textes? Parce que, juste, enfin, le texte, c'est la racine de textile, de tisser. Donc, sur les réseaux sociaux, on a des textes qui sont plus fragmentaires. Et donc, la capacité à pouvoir construire des choses en les reliant, elle est plus difficile parce qu'en fait, il faut rassembler peut-être plein de morceaux, alors que le texte donne des choses qui sont des fois peut-être plus construites parce que plus longues, plus patientes dans la construction.
Oui, alors peut-être je me suis mal exprimée. Moi, je parle d'un ensemble de textes, c'est-à-dire que voilà, t'es un prof, t'as avec ton corpus, tes trucs, t'es dada. Voilà. Et en fait, on ne les relit pas de la même façon d'une année à l'autre parce que les étudiants sont différents en face, d'une certaine manière. Et après, évidemment, il y a des choses... les réseaux sociaux ne sont pas que du mauvais ou du machin. Je trouve que ça nous oblige, nous, à prendre les choses de manière... il y a une complexité en plus, en tout cas dans le rapport au texte. Mais voilà, je n'en dirai pas tellement plus que ça.
Non, j'étais un peu perturbé parce que moi, on parle de textes, de littérature ou autre chose, là ça va être très très long. Surtout si c'est moi qui commence à en parler là. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de lecture blanchotienne dans le Midnight Boot Club. En tout cas, je ne me gênerai pas pour vous en faire. Non, vous voulez quand même tous les trois le préciser. D'autre côté, on a remarqué depuis notre situation qui est exceptionnelle que la dernière promotion de l'ESSAD, elle a majoritairement subi la lutte pour sauver notre école.
Subi au sens vraiment subir.
Oui, vraiment. Donc c'est quelque chose qu'on voulait souligner. Tu as parlé des années Covid et effectivement, il faut reconnaître qu'après les années Covid, se retrouver au milieu de problématiques pareilles, a été complètement insupportable pour elle. Et nous aussi, on l'a vu en première année, c'est-à-dire que, alors, à l'époque, avec une enseignante coordinatrice, donc Lucille Bataille, on suivait les premières années et il y avait beaucoup de rendez-vous, beaucoup de suivi, on sentait qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Donc ça a été parfois une source de frustration pour nous et les années précédentes qui se sont senties davantage auteur-autrice de cette lutte, peut-être un peu moins maintenant.
Maintenant,
si
ils sont partis, quoi, du coup.
Mais même ceux qui sont présents.
Oui, c'est sûr.
C'est pas un reproche, hein, je veux dire.
Non, évidemment, nous leur reprochons rien. Mais peut-être ce que j'ajouterais, c'est aussi quelque chose que nous, on a complètement sous-estimé. C'était le fait d'être vraiment la dernière promo. Donc, quand on était en train de constituer les maquettes pédagogiques, on s'est battu corps et âme pour que tout le monde puisse maintenir leur poste parce qu'il faut effectivement respecter les grilles du ministère. Il faut absolument qu'il y ait quand même une pédagogie jusqu'au bout avec un accès à l'entièreté de notre programme pédagogique. Ce qu'on a moins anticipé, c'était le fait qu'il n'y ait plus des années supérieures. Ça allait énormément nuire, finalement, à cet enseignement. Parce que cette transmission qui se faisait entre étudiants est complètement indispensable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui leur manque, évidemment, le plus. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a un niveau d'anxiété qui est beaucoup plus élevé. Parce que cette manière de un peu nuancer le stress du DNA... ça arrive quand les DNCEP nous disent « Allez, ça va, c'est un DNA. » Bon, chaque chose dans son temps, on est tous passés par là. Là, pour le moment, voilà, exactement. Donc ça, c'est une sorte de bouteille à la mer, de se dire, tiens, on a fait, on a vraiment fait au mieux pour qu'on continue de garantir la meilleure pédagogie possible. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Donc quand même, à réfléchir. En tout cas, on continuera à réfléchir à cette chose-là.
On évoque quand même pas mal de changements en fait qui sont à voir à l'échelle en fait sociétale et donc de notre capacité aussi à s'adapter à ces changements pour être aussi plus en phase avec les nouvelles générations d'étudiants d'étudiantes. Donc c'est la question un peu des méthodes qui sont à revoir. Et pourtant la question de comment enseigner et de former les designers qui œuvrent un peu contre aussi un système qui commence de plus en plus à nous bouffer et qui est de plus en plus qui nous amène de plus en plus au bord du gouffre, et elle est récurrente et puis elle est récurrente en fait dans l'histoire du design. Est-ce qu'il est encore temps et possible de le faire au sein de nos institutions dans lesquelles Daria tu rappelais que nous sommes soumis aux règles du marché? Si oui, pour combien de temps? Et donc continuer cette question, c'est est-ce qu'en fait l'abandon et le renoncement, c'est une sorte de forme de réponse possible qui a donné aux étudiants et aux étudiantes? Et puis aussi, on voulait aller sur la question de la médiation, parce que c'est des choses, ou en tout cas c'est un rôle qui est de plus en plus donné, attribué aux designers. Peut-être parce qu'en fait dans les résidences aussi missions qu'on trouve à l'extérieur de l'école, comme il y a une injonction, et ce qui est peut-être une très bonne chose, à discuter avec le public, c'est des choses qui sont mises au cœur de ces dispositifs et de la demande qu'on fait. Mais dans ce truc de médiation, c'est un peu à double tranchant, parce qu'en fait, c'est soit... En tout cas, c'est révélateur de deux types d'attitudes, et pour simplifier, pour utiliser, on va dire, une rhétorique dichotomique, on va dire soit en fait c'est faire avaler la pilule des politiques pour certaines collectivités, c'est-à-dire imaginons on change un quartier, et ben en fait on va mettre des designers sur le coup, et ils vont nous aider à faire comprendre que faut que le quartier change et on va pas revoir nos objectifs. Et puis il y a la question aussi de le designer comme médiateur, mais pour faire changer d'attention, pour faire bifurquer l'attention. Ça, c'est un point dont tu parles aussi, Daria, il me semble, sur le fait qu'à un moment donné, ça, c'est peut-être un des rôles fondamentaux de la pratique en fait, du design, ou de la pensée du design. C'est la capacité en fait, à faire dérailler ou bifurquer, en fait.
Oui, totalement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions dans cette question. Donc, effectivement...
J'ai trop compacté.
Non, pas de souci. Donc, il y avait la question de est-ce que c'est toujours possible. Je ne sais pas, devine, mais je pense que c'est toujours possible. Il faut juste y croire. Hein. Je sais que c'est un peu à la noix, en fait, c'est ce conseil, mais j'y tiens quand même. Oui, c'est essentiel. Et ce qui est important aussi, en tout cas, enfin, je pense que la chose à laquelle il faut renoncer, c'est à ce fantasme de designer star. En tout cas, pour l'instant. Peut-être dans 30-50 ans, ça va revenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je dis aussi à mes étudiantes, qu'il faut que non seulement qu'ils apprennent, mais aussi il faut qu'ils prennent plaisir de travailler ensemble. Parce qu'en fait, pour moi, mais encore une fois, je ne sais plus devine, l'avenir de design est dans les collectifs, en fait. Donc, dans les collectifs, dans les communications, et pas uniquement dans la relation designer-client, comme c'était avant, designer-industrie, etc. Mais aussi avec, effectivement, collectivité. Et c'est là, effectivement, qu'il arrive cette question de designer-médiateur. En revanche, en fait, il faut effectivement inventer aussi bien des formes pédagogiques que des formes médiation. Parce que quand on dit designer médiateur, on pense tout de suite, enfin en tout cas, moi je pense tout de suite, la présentation graphique. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce que je vais expliquer sur un support en deux dimensions, comment est-ce que les gens devraient se comporter, enfin, ou construire un projet, etc. En tout cas, dans ma pédagogie, je parle du fait que les designers, ils sont pas les seuls, mais ils font partie des communautés des créatifs, des créateurs qui, très tristes aussi, qui créent des imaginaires. Et donc, c'est-à-dire que les imaginaires, on les crée pas uniquement par des images. En fait, on les crée aussi par des ambiances, les expériences. C'est pour ça aussi que l'exemple de Dirty Art, de Nuclear Banana, c'était une grande inspiration. Parce qu'effectivement, design de situation, comment est-ce qu'on crée des situations et comment est-ce qu'on crée la matérialité de ces situations et comment est-ce qu'ils rencontrent aussi, ils produisent quelque chose, pas dans le sens capitaliste du terme, mais dans le sens comment est-ce qu'on on crée un nouveau environnement, une espèce de... ouais, Everytopie, comme elle l'appelait Jersey. Donc voilà, ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je cède la parole à Catherine.
La médiation, moi, je vois deux choses. Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de rapport du designer à qui la médiation est offerte, si je puis dire, comme un métier. Voilà. Moi, j'avoue que ça m'énerve un peu. Parce que, en fait, c'est un des moyens. Le design est une discipline vraiment propice à l'instrumentalisation. C'est à la fois, évidemment, une faiblesse et d'un très grand intérêt, on va dire, d'une certaine manière. Ça veut dire quoi ? Être instrumentalisé ou accepter de l'être ou ne pas vouloir l'être. Enfin, voilà, c'est quand même des manières de se poser, quoi. Donc, la médiation comme toujours un moyen de faire un projet, ça me gonfle un peu. Et en même temps, historiquement, en fait, le designer a toujours été cette espèce de médiateur qui a toujours travaillé à faire accepter un nouvel état des choses, en particulier un nouvel état technique ou technologique. La modernité, c'est carrément l'espèce d'endroit où le designer vient dire à quel point c'est formidable, la vie moderne et la machine. Mais c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est de ça. Et c'est là où tu as dit un mot hyper important, qu'il faut y croire, parce qu'en fait, la croyance joue à bloc, quoi, dans cette affaire. Donc, en fait, pour moi, la question avec les étudiants, médiation, pas médiation, est-ce qu'on est un médiateur, c'est en fait à quoi on décide de croire. Et ça nous fait effectivement potentiellement échapper à des choses comme le marché, comme le capitalisme, comme la destruction créatrice. Mais ça nous fait aussi les envisager comme des ingrédients avec lesquels il va falloir faire. Et en fait, c'est là où tout d'un coup, cette histoire de création de situation qu'on avait mis en place au Dirty devenait quelque chose en fait qui embarquait et les étudiants qui réfléchissaient vraiment à cette façon de créer une situation. Alors, est-ce que créer une situation, c'était créer une réalité ? C'était une autre question. Mais en tout cas, ça faisait expérimenter concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne restait pas dans le discours, quoi. Il fallait inventer les choses et les faire ensemble. Et ça nous embarquait, nous, avec les mêmes questions. C'est-à-dire que moi, à mon âge, qui ne suis pas de la même génération que les étudiants que j'ai, etc., etc., à un moment, qu'est-ce que ça me dit, cette affaire-là ? Avec tout le confort dont, par ailleurs, jouit quelqu'un qui a 30 ou 40 ans ou 50 ans, à un moment où c'est les étudiants avec qui il ou elle, et n'en ont que 20, 21, 22 ou 23, quoi. Mais ça me semble important. Et dernier élément, il y a un mec que j'adore, enfin, un designer que j'adore, qui est George Nelson, donc un type qui a vraiment travaillé sur des questions d'American Way of Life, donc avec des choses très modernes, enfin vraiment, c'est Herman Miller, c'est les Hymns, c'est tous ces machins-là. Mais c'était quelqu'un qui n'arrêtait pas de regarder cette espèce d'époque moderne, de cet âge d'or de l'Amérique qui produisait, qui, voilà, et qui a toujours eu une espèce de rapport hyper ironique, qui attendait ce qu'il appelait le retour du boomerang, quoi, qui disait en fait, quand on est en fait dans ces espèces de rapports, et lui, il considérait donc de rapports de consommation et il disait en fait l'extractivité, c'est quelqu'un qui parlait de ça dans les années 50, hein, c'est génial quoi. Et en fait il disait voilà, à quel moment ça va nous revenir dans la figure, il le disait très clairement. Et pour lui, et c'est ça remet en jeu l'histoire de médiation, c'est là où j'arrive, en fait ce qu'il voulait pour le design, c'était que le design soit une forme de communication sociale, ce qui revient en fait à faire de la médiation, mais à la faire avec des grandes questions, pas à la faire avec des petites questions. Voilà, c'est cette histoire de design des politiques publiques qui est à la fois passionnante et qui est à la fois une espèce d'endroit très piégeuse, en fait, d'une certaine manière. Mais je pense que c'est aussi une façon importante d'échapper à l'objet. Et en fait, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, vraiment dans la question du design depuis, depuis un certain moment. C'est comment, effectivement, en fait, il est potentiellement important ou nécessaire d'échapper à l'objet. Voilà, qu'il y a d'autres objets à construire qui sont effectivement des modes d'interrelation dont tu parles aussi, en fait.
Bah, peut-être qu'on va conclure sur cette pensée que plutôt que de renoncer, comme tu dis, Daria, il faut absolument y croire. Il faut constituer ces réseaux aussi underground ou overground qu'il faudrait qu'ils soient every ground, everywhere. C'est une proposition que nous faisons à la radio ce soir. Contactez-nous si ça vous dit de penser justement à ces pas si imaginaires futurs possibles, souhaitables, nécessaires. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous deux. Vraiment, beaucoup de choses à penser. C'est aussi un peu une remontée pour nous trois et j'imagine aussi pour nos collègues et étudiants d'entendre ces possibles... ces possibles futurs à investir. Nous allons vous laisser du coup là avec un morceau de musique et puis nous vous retrouvons juste après pour une lecture de Félix Casitani. Je vais laisser Florian introduire la musique choisie par ses soins ce soir.
Alors, ce soir, pour conclure notre émission, nous allons écouter Niagara pendant que les champs brûlent.
Jamais.